Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, une histoire presque interdite. L'enquête sur le meurtre en 2005 à Genève, en Suisse, du banquier français Édouard Stern, que l'on retrouve, vous vous en souvenez peut-être, emmailloté dans une combinaison en latex. Je dis presque interdite parce que, allez sur Internet, hein, faites l'expérience, cherchez les enquêtes sur l'affaire Stern, les documentaires, les longues enquêtes de presse, vous ne trouverez pas grand-chose, si ce n'est deux livres, écrits par le même duo, deux journalistes suisses, Valérie Duby et Alain Jourdan, qui ont publié en 2006 « Mort d'un banquier, les dessous de l'affaire Stern » aux éditions privées, en France, et en 2009 aux éditions Sadkin, « Affaire Stern, un procès sous contrôle ». J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
C'est une histoire que j'ai failli vous raconter dans Fait entrer l'accusé. Mais seulement failli.
Oui, tu comprends, l'une de nos productrices est très proche de la famille. Elle ne souhaite pas qu'on en parle. Tu comprends, hein, c'est assez gênant comme affaire. Faisons une autre affaire, voilà tout.
Oui, mais c'est tout de même une histoire passionnante, quoi. Il y a tous les ingrédients d'un grand fait divers. Il y a la célébrité, le sexe, la perversité.
Oublie, hein. Oublie. Il y en a d'autres des histoires passionnantes.
Bon, j'ai avalé la couleuvre. C'est assez digeste, une couleuvre, finalement. Plus qu'on ne le dit. Mais si. Il suffit de bien mâcher. Mais dans un coin de ma tête, j'ai gardé cette histoire en me disant un jour, je la raconterai. Et ce jour, eh bien, c'est aujourd'hui. Le monsieur qu'on va retrouver mort dans un instant, dans une drôle de posture, s'appelle Édouard Stern. Avant de me lancer dans cette histoire incroyable, laissez-moi vous le présenter. En 2005, quand éclate cette affaire, Édouard Stern est classé 38e fortune de France. C'est un héritier. Il a grandi dans un hôtel particulier au pied de la Tour Eiffel. À 22 ans, il entre au conseil d'administration de la banque de papa, la banque Stern. Et deux ans plus tard, à 24 ans, il la chipe à son père en montant un putsch avec son oncle. Dallas, ton univers impitoyable. Il sauve la banque familiale de la faillite et ensuite il la vend. Une banque qui était dans la famille depuis 1823. Et là, nouvel épisode de Dallas, il fait un beau mariage. Il épouse la fille de Michel David Veil, le PDG de la banque Lazare. Il aurait dû prendre la succession de son beau-père, mais il se fâche avec lui. Tant pis. Il est riche, il crée un fonds d'investissement qui prend des parts dans Panzani, dans United Biscuit et son fameux Choco BN, et dans la maison de disques Naïve, la maison de Carla Bruni. À part ça, vous savez comment on le surnomme en 2005, Édouard Stern? Le banquier de Sarkozy. Non pas qu'il gère les comptes en banque de Sarko, non. Mais il murmure à son oreille. Sarkozy n'est pas encore président, mais il y pense en se rasant. Voilà, vous savez tout. Et c'est la dernière fois dans cette histoire que je vous parle de finance et de politique. Car derrière le costume gris du banquier, se cachait un autre homme. Le 1er mars 2005, dans la matinée, à Genève, en Suisse, où Édouard Stern a ses bureaux, ses collaborateurs s'étonnent de ne pas le voir. Ça n'est pas dans ses habitudes. Monsieur Stern est un homme à l'heure. Son assistante l'appelle au téléphone. Il ne répond pas. Alors quelques-uns de ses proches collaborateurs, inquiets, décident d'aller chez lui. Il sonne encore, personne ne répond. Alors ils finissent par appeler sa femme de ménage, qui a les clés. Elle ouvre la porte, et les collaborateurs d'Édouard Stern avancent dans son appartement. Et ils arrivent dans sa chambre. Oh nom de Dieu! Il est là, au pied du lit, étendu sur le côté. Mort! Et pas mort d'un infarctus ou d'un AVC, on l'a tué, Édouard Stern. Mais ce qui surprend tous ceux qui sont dans cette chambre à ce moment-là, ce qui va faire tout le sel de cette affaire, c'est sa tenue. Édouard Stern, le banquier de Sarkozy, porte une combinaison en latex qui recouvre l'intégralité de son corps, des pieds jusqu'au cou, et un masque en latex, lui aussi. Imaginez la tête de ses collaborateurs cravatés. Leur boss est sapé comme une poupée gonflable. Comment va-t-on raconter ça? C'est très gênant. La police arrive. Édouard Stern a été tué de 4 balles de revolver.
Une enquête pour assassinat ou meurtre a été ouverte et des spécialistes de la police scientifique suisse vont tenter de faire parler chaque indice. Pour ces enquêteurs, et même si leurs informations sont délivrées au compte-gouttes, il pourrait s'agir d'une affaire privée. À l'appui de cette hypothèse, des observations faites sur la scène du crime, ainsi que les circonstances et le lieu où le corps a été retrouvé. En revanche, de sources financières, on évoque plutôt une action des milieux criminels des pays de l'Est, où Édouard Stern faisait des affaires depuis quelques années, notamment dans l'immobilier.
Ne perdez pas votre temps du côté de la mafia russe, hein. C'est privé, cette histoire. Très privé. S'il y a un fil à suivre dans cette enquête, c'est bien sûr celui de la combinaison en latex. Ça n'est pas le genre de tenue que l'on met quand on est tout seul. La combinaison en latex est un accessoire utilisé dans les relations sadomaso. Alors avec qui était-il quand il a été tué? Avec sa femme? Non. Ils sont divorcés depuis 7 ans. Alors une maîtresse? Eh ben oui. Et d'ailleurs plus qu'une maîtresse, une compagne. Édouard l'a présenté à sa famille, et même à ses enfants, qui, entre parenthèses, l'ont trouvé un peu tartignole. Bref, cette femme, les policiers suisses découvrent vite son nom. Elle s'appelle Cécile Brossard. D'après ce qu'on dit, c'est une libertine, qui organise régulièrement chez elle des soirées avec des couples. Soirées qu'elle pimente avec tout un tas d'accessoires, genre sextoys, menottes, fouets, liens... et aussi des combinaisons de latex. C'est elle qui a initié Édouard, qui aimait ça, manifestement. Car en perquisitionnant son appartement, les policiers tombent sur des revues et des DVD qui sont sans équivoque. Édouard Stern était adepte du sadomasochisme. Alors cette Cécile Brossard, où est-elle? Ça n'est pas forcément elle qui a tué Édouard, mais elle sait sans doute des choses. Ça n'est pas la police qui l'appelle la première. C'est la sœur d'Édouard Stern. Je vous l'ai dit, elle a été présentée à la famille. La sœur a son numéro.
Édouard? Assassiné? Mon Dieu, c'est terrible!
Mais où êtes-vous, Cécile?
Oh, je suis très loin, je suis en Australie. Mais j'arrive. Je rentre à Genève immédiatement.
Cécile Brossard rentre d'Australie et se présente à la police suisse. À ce stade, elle n'est qu'un témoin, rien de plus. Madame Brossard, nous découvrons le corps de Monsieur Stern le 1er mars au matin. Est-ce que vous l'avez vu dans les jours et les heures qui précèdent?
Oui. Oui, je l'ai vu la veille. Mais quand je suis entré chez lui, il était déjà mort. Alors j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on m'accuse, alors je me suis enfui.
Vous dites qu'il était déjà mort. Vous pouvez nous décrire la scène quand vous êtes entré dans cet appartement, ce que vous avez vu précisément?
Eh bien oui. Oui, il était criblé de coups de feu.
Des coups de feu, dites-vous?
Oui, sur son corps, il y avait des traces des coups de feu.
Et là, gros problème. À partir de ce moment-là, Cécile Brossard devient suspecte parce qu'on ne voyait pas les traces de coups de feu sur le corps. Il a fallu déshabiller le corps à la morgue pour s'apercevoir qu'Édouard Stern avait été tué par balle. Car figurez-vous que sous l'effet de la chaleur provoquée par le passage des balles, la combinaison en latex s'était refermée, ressoudée. On ne voyait rien. Elle ne pouvait pas savoir. Et donc, si elle sait... Eh ben, c'est que c'est elle. C'est terrible, elle vient de se faire avoir. Et les policiers ne le lui cachent pas. Alors finalement, elle craque. Elle avoue. Oui, c'est elle qui l'a tué.
Je lui ai tiré 2 fois dans la tête. Les 2 autres coups, c'était pour qu'il souffre pas. Et voyez-vous, ça m'a rappelé une chasse à laquelle nous avions participé ensemble, en Tanzanie. Édouard avait abattu un hippopotame et il a pris plaisir au spectacle de son agonie. C'est pour ça que j'ai abrégé ses souffrances, c'est pour qu'il souffre pas comme l'hippopotame.
Elle dit qu'ensuite, elle met l'arme dans un sac, qu'elle récupère les quatre douilles sur le sol de la chambre, qu'elle prend la poubelle où se trouve la canette de coca qu'elle a bu avec lui, qu'elle referme la porte à clé, qu'elle descend au parking prendre sa voiture, scène que l'on voit parfaitement bien sur les enregistrements des caméras de surveillance de l'immeuble. Elle raconte qu'ensuite, elle va chez elle à Clarence, près de Montreux, à l'autre bout du lac Léman. Enfin chez elle. Chez eux. Là où elle vit avec son mari, Xavier. En vérité, ils se sont mariés à Las Vegas. Et d'ailleurs, ils vivent sous le même toit, mais ils ne dorment pas dans la même chambre. Le Xavier en question dira « Ah ben je suis devenu au fil du temps pour Cécile. Une sorte de père de substitution. » Et ensuite de Clarence, Cécile Brossard veut rejoindre l'Italie. En passant au bord du lac Léman, elle se débarrasse du sac qui contient l'arme et les douilles. Elle va à la gare, elle veut prendre un train pour Rome, mais dans la panique, elle se trompe de quai et elle monte dans un train régional. Ah, ça n'est pas la cavale d'un tueur à gages. Elle descend donc à la première gare, Montreux, et là elle prend un taxi pour tenter de rattraper le train pour Rome. Mais de gare en gare, elle le rate. Alors elle garde le taxi et se fait amener directement à l'aéroport de Milan, où elle achète un billet pour Sydney, en Australie, très loin du crime qu'elle vient de commettre.
Voilà, je crois que je vous ai tout raconté. C'est moi qui ai tué Edouard.
Tout raconté? Ah non! Non, on veut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle l'a tué? Et elle l'a tué à cause d'une phrase. Une phrase qu'il a prononcée et qu'elle n'a pas supportée. C'est un moment important dans cette enquête parce que cette phrase pourrait lui permettre de bénéficier de circonstances atténuantes. Parce que cette phrase résonne comme une gifle, comme un coup de poing. Alors avant de vous dire moi-même quelle est cette phrase qui déclenche un meurtre, il faut que je vous précise le contexte, sinon vous n'allez pas comprendre. Édouard et Cécile avaient depuis le début une relation houleuse. Quelques mois avant le meurtre, elle voulait le quitter. Mais lui ne pouvait plus se passer d'elle. Il était devenu accro à ses petits jeux sexuels. Alors, d'après ce qu'elle dit là, dans le bureau des flics, après ses aveux, il lui avait promis le mariage.
Il m'avait dit, on se mariera, et en plus je te donnerai $1 million. Il m'avait dit « Cet argent, ce sera le gage de ton indépendance. »
« Et vous avez accepté cet argent ?»«
Oui. Vous savez, moi, l'argent, ça ne m'intéressait pas. Plusieurs fois, il m'avait proposé de me verser une pension. J'ai toujours refusé. Mais là, il était question que je devienne sa femme. Donc, j'ai accepté. »«
Cet argent, il vous l'a versé ?»«
Oui. Il me l'a versé le 12 janvier, par virement. »
Et en quoi cela explique que vous l'ayez tué, madame?
Ben c'est qu'après, il m'a demandé de rendre l'argent. Il a changé d'avis. Moi, j'ai pas voulu lui rendre. Mais bon, il était banquier, c'était facile pour lui. Il l'a fait placer sous séquestre de justice. Il m'a menacé d'un procès.
Et tout ça, elle dit qu'elle le découvre le matin du 28 février. Et voilà pourquoi elle va l'attendre chez lui le soir même pour une énième dispute. Que lui espère sans doute résoudre par le sexe. C'est pour ça qu'il enfile la combinaison en latex et le masque. Au début, elle joue le jeu. Il s'amuse un peu. Et c'est là, dit-elle, à ce moment-là, qu'il prononce la phrase qui va sceller son arrêt de mort.
Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit $1 million. C'est cher payé pour une pute. Il m'a dit ça. Une pute. Et là, j'ai pas accepté. J'ai pas supporté. Une pute, vous vous rendez compte? Il me prenait pour une pute. À ce moment-là, il était attaché sur une chaise, dans le cadre de nos petits jeux. Je suis allé dans le dressing, il a dû penser que j'allais chercher un sextoy. Bref, dans le dressing, il y avait des armes. Il gardait des armes chez lui, trois armes au total. Je suis revenu.
Elle dit qu'elle tire une première fois dans la tête, qu'il tente de se relever, alors elle tire une deuxième fois, encore dans la tête. À ce moment-là, il ne bouge plus, mais elle tire encore deux coups dans le corps. C'est donc ça le mobile du meurtre, le fait qu'il l'ait traitée de pute. Elle qui lui a ouvert les chemins du sexe sans limite, sans complexe. Elle avec qui il partait en vacances, elle qui l'a présenté à ses enfants, elle à qui il a promis le mariage. Mais est-ce qu'on doit la croire? Bah oui, enfin ça se tient. Parce qu'en fouillant dans son téléphone portable, les policiers suisses tombent sur des SMS. « Tu n'es qu'une pute. T'aurais travaillé pour la Gestapo pendant la guerre. Tu m'aurais dénoncé comme juif. » Ou encore « Tu n'es qu'une merde. Je vomis sur toi. Tu n'existes pas. Je t'emmerde. Je vais te faire du mal. » Donc, il lui parlait mal. On ne sera jamais certain à 100% qu'il l'a traité de pute, mais à la lecture de ces messages, ça n'est pas impossible. Et de fait, en France comme en Suisse, comme dans tous les systèmes judiciaires du monde, il existe une forme d'excuse pour les meurtres commis dans la folie de l'amour. Une forme de compréhension publique pour ce que la blessure d'amour met soudain hors d'eux-mêmes. Alors certes, ça n'est pas toujours inscrit dans la loi, mais les jurés, en pratique, accordent des circonstances atténuantes aux assassins blessés en amour. Les jurés de la cour d'assises de Genève seront-ils sensibles à la blessure de Cécile Brossard? Les avocats de la famille Stern les mettent en garde par avance.
Je crois que c'est une histoire très concrète, très, très vénale, très matérielle. Nous ne sommes pas dans la passion, nous ne sommes pas dans l'incandescence, nous ne sommes pas dans le discours amoureux, même pas dans ses fragments. Une femme intéressée, un homme qui s'exécute, et puis une querelle autour de l'argent donné sans cause, et l'assassine, c'est aussi sordide et dramatiquement simple que ça.
Le procès est prévu début juin 2009. Le procès de Cécile Brossard s'ouvre le 10 juin 2009 devant la cour d'assises de Genève. Pour la Suisse, c'est le procès de la décennie. Des centaines de journalistes sont là. Le cocktail sexe plus argent promet un feuilleton à succès. Quand Cécile Brossard entre dans la salle d'assises, on ne la reconnaît pas. Disparue la jolie blonde qui les rendait tous fous. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, très amaigrie, à peine maquillée, un petit chignon, un tailleur pantalon bleu marine discret, un chemisier à rayures. Elle n'a rien de sulfureux, rien. Et sur le banc des parties civiles, la famille d'Edouard Stern, sa femme Béatrice et ses trois enfants, l'aîné qui ressemble beaucoup à son père et le petit dernier qui n'a que 18 ans. C'est rude pour eux. Ils appartiennent à la grande bourgeoisie française et pendant ce procès, on s'apprête à déballer les détails de la sexualité olé olé de leur papa. Le président de la cour d'assises a été sensible à ça. Il a donc décidé que le premier jour se tiendrait à huis clos, sans presse et sans public. Et les jours suivants, quand on rentrera dans les détails un peu scabreux, ils ne seront plus là. Comme ça, ils pourront garder l'image du père extraordinaire qu'ils ont connu, le fin lettré qui les a initiés aux grands auteurs, le mélomane qui les accompagnait au concert et le chasseur qui les a emmenés chasser en Tanzanie et en Sibérie. Le père mythifié, pas celui de la combinaison en latex. De toute façon, Cécile Brossard elle-même a demandé à ses avocats d'éviter le grand déballage.
Il y a des aspects liés notamment à la vie sexuelle des uns et des autres qui, à notre avis, ne servent absolument pas à notre démonstration. Et nous sommes qui plus est calibrés dans notre rôle de défenseur par la volonté très ferme de Cécile Brossard de ne pas faire plus de dégâts qu'elle n'en a déjà fait dans l'entourage d'Edouard Stern.
Ce ne sera pas un grand déballage, ce procès.
Ah non, en tout cas, pas de notre part.
Est-ce que c'est elle qui a vraiment choisi, d'ailleurs? Au procès, on a la nette impression qu'un accord a été scellé avec la famille, pour ne pas entrer dans les détails. Et pourtant, le dossier n'en manque pas de détails. 500 pages qui retracent tous les messages, tous les SMS, les emails, les lettres que les deux amants se sont envoyés. Eh bien, il a été convenu de ne pas en parler. Mais un soir, l'avocat de Cécile Brossard craque. Sa cliente a été descendue en flèche toute la journée. Alors il s'adresse au juge et au juré. « Prenez le dossier !» Regardez les photos. Lisez les lettres, les mails, les retranscriptions des messages téléphoniques. Toutes ces choses que nous ne voulons pas évoquer oralement pour ne pas exposer davantage Édouard Stern. Et accessoirement Cécile Brossard à la curiosité du public et de la presse. Mais vous qui êtes juge, lisez. Ils veulent prouver la passion. Alors qu'en face, les avocats de la famille Stern veulent prouver l'intérêt, la vénalité, l'obsession du million. Le cinquième jour est le moment capital du procès. Le jour où Cécile Brossard raconte. Elle veut sauver l'idée que sa liaison de 4 ans avec Édouard Stern était bel et bien une histoire d'amour.
Mais si c'est une histoire d'amour, madame, pourquoi acceptiez-vous de servir de rabatteuse à Édouard ?
Eh oui, elle faisait ça aussi. Au-delà des relations intimes qu'elle entretenait avec Édouard, elle organisait ce qu'il est commun d'appeler des partouzes. Elle avait coutume de dire qu'elle était sa secrétaire sexuelle. Elle ne se démonte pas à la barre. Elle assume. Il lui désignait une fille, parfois parmi ses copines, et elle la lui ramenait, et elle les regardait. Elle dit qu'elle a fait ça par amour, en échange de la tendresse qu'Édouard lui portait. Parmi les moments marquants du procès, il y a aussi le témoignage de l'expert psychiatre qui l'a vu pendant plus de 100 heures en détention.
C'est une personnalité très complexe. Du point de vue psychiatrique, je dirais qu'elle est borderline, capable de tous les excès. Elle croit que le fait de tuer quelqu'un permet d'avoir une relation éternelle avec cette personne. Et d'ailleurs, elle garde une relation avec lui au-delà de la mort, éternellement. Par ailleurs, je tiens à souligner que sur le plan de l'intelligence, il s'agit d'une personnalité très limite, qui présente un quotient intellectuel de 80, qui est à la limite inférieure de la norme. Elle a vécu dans l'enfance des expériences très malheureuses, une mère dépressive et suicidaire, un père qui a pratiqué sur elle des attouchements, il semble par ailleurs qu'elle ait été violée par son oncle maternel. Tout cela fait d'elle une femme pour qui l'abandon et la solitude sont difficiles à vivre, beaucoup plus que pour d'autres. Et tout cela m'amène à considérer qu'elle doit bénéficier d'une diminution de responsabilité.
Le procès touche à sa fin.
18h17, le verdict est tombé il y a un peu plus d'une demi-heure pour le meurtre du banquier Édouard Stern. Cécile Brossard est reconnue coupable d'homicide, ce qui veut dire dans le droit suisse que la cour d'assises de Genève ne lui reconnaît pas, Fabienne Lemoyne, la circonstance atténuante du crime passionnel.
Pourquoi ? D'abord parce que Cécile Brossard était en partie responsable de l'état dans lequel elle se trouvait. Elle aurait pu quitter Édouard, elle aurait pu consulter un psychiatre. Ensuite, parce qu'elle a provoqué Édouard Stern. Par exemple, en ne lui rendant pas son fameux million, symbole d'amour, mais qui n'avait plus qu'une valeur matérielle entre les deux amants. Et puis, il y a son comportement après le meurtre. Et là, on dit qu'elle n'appelle pas la police, qu'elle ramasse les preuves pour s'en débarrasser. Elle ment de manière éhontée, bref, écrivent les jurés. Elle a un comportement cynique, réfléchi et manipulateur.
La peine est décidée le lendemain. Pour un crime passionnel, Cécile Brossard risque 10 ans. Pour un meurtre, 20 ans. Elle est finalement condamnée à 8 ans et demi de prison. Elle s'en sort bien. Elle s'en sort très bien. Les circonstances atténuantes, finalement, sont dans le quantum de la peine. Elle a déjà fait 4 ans de préventive, c'est-à-dire presque la moitié de ses 8 ans. Encore une petite année de prison, et elle devrait sortir. Elle s'en sort très bien. Et effectivement, Cécile Brossard sort de prison un an et demi plus tard, en novembre 2010.
5 ans et demi après la mort du banquier, son amant, tué de 4 balles au beau milieu d'un rapport sadomasochiste, Cécile Brossard a été raccompagnée dans la foulée. Hier, à la frontière française, elle est interdite d'entrer sur le territoire suisse pendant 10 ans.
Elle a promis à la famille Stern de ne pas parler à sa sortie de prison. Et depuis, elle a tenu sa promesse. Elle n'a accepté de s'exprimer qu'une seule fois pour un programme de faits divers de la télévision suisse. Mais sous la forme d'une lettre, rien de plus. Je vous en lis un extrait. La fille d'Édouard Stern, Mathilde, a dit au procès une phrase qui m'a immensément peiné. car seule la vérité blesse. Elle a dit, elle n'a pas pensé une seule seconde à nous. Je n'étais pas en état de penser pendant ces quelques secondes où tout a explosé en moi. Si j'avais été en état de penser, moi qui suis croyante, j'aurais appliqué le commandement « Tu ne tueras point ». Et ensuite, évidemment, j'aurais pensé aux enfants et à Édouard. Il est évident que chaque seconde de ma vie qui passe, je regrette et je regretterai éternellement mon geste. Édouard avait une belle âme. Il avait le goût des œuvres d'art, de la musique classique, de la poésie, de la littérature. Il aimait apprendre par cœur des poésies d'Aragon pour les transmettre à ses enfants. Voici donc le vrai Édouard, que d'aucuns ont essayé de salir. La vérité met un certain temps à émerger, mais quand elle éclate, alors elle brille de tous ses éclats. Telle est la belle et lumineuse personnalité d'Édouard. Elle l'aime toujours. Elle l'a tué, mais elle l'aime toujours. Cette affaire a inspiré un roman de Régis Jouffray en 2010, Sévère, lequel roman a été adapté au cinéma en 2013 par la réalisatrice Hélène Filière sous le nom de Une histoire d'amour avec Laetitia Casta qui joue le rôle de Cécile et Benoît Poulvorde, celui d'Edouard Stern. Mais à ce jour, il n'existe toujours aucun documentaire sur cette histoire. Il y a eu beaucoup de pression de la famille d'Edouard Stern pour qu'aucune émission de télévision ne se fasse. Et constatons que les chaînes de télé s'y sont toutes pliées. Édouard Stern eût-il été jardinier, ouvrier, enseignant ou que sais-je, il n'y aurait eu personne pour protéger sa mémoire. Mais un banquier, qui a des amis politiques, voyez-vous, ça n'est pas pareil.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.